écoutez RFI, il est 14h à Paris, 8h à Port-au-Prince. Dans quelques minutes sur RFI, le journal d'Haïti et des Amériques, on va reparler de cette collision à Washington entre un avion de ligne et un hélicoptère. Nous ne pensons pas qu'il y ait de survivants, disent les pompiers. Le bilan devrait s'établir à des dizaines de morts. En Haïti, la force multinationale poursuit ses efforts pour repousser les gangs, des efforts qui commencent à payer, nous dira Leslie Voltaire, le président du Conseil de transition, qui a accordé une interview à RFI et France 24. Et puis on terminera avec le journal des Outre-mer, Benoît Ferrand. On parlera de la plainte du groupe Bernard Ayot.
Accusé, en résumé, d'être le principal responsable de la vie chère aux Antilles, le groupe porte plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse.
A tout à l'heure, Benoît.
RFI Midi.
Et on commence par le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour à tous.
On commence avec la visite de Jean-Noël Barrot en RDC.
Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé à Kinshasa. Une visite de quelques heures qui intervient après la prise de parole de Félix Tshisekedi. Le président de la RDC a dénoncé dans une allocution télévisée l'inaction de la communauté internationale face à l'avancée du M23 et de l'armée rwandaise dans l'est du pays. À Goma, ils ont pris position dans plusieurs quartiers de la ville. Alexandra Brangeon, vous êtes en direct de Kinshasa. Que sait-on des discussions entre Jean-Noël Barrot et Félix Tshisekedi ?
Alors l'échange a duré près d'une heure et s'est bien passé, confiait tout à l'heure une source diplomatique française qui ajoute que le ministre français des Affaires étrangères a répété au président congolais Félix Tshisekedi que la France condamnait l'offensive du M23 et des forces rwandaises. Jean-Noël Barrot a également réitéré que les rebelles du M23 devaient se retirer des territoires dont ils ont pris le contrôle et répété que les forces rwandaises doivent quitter instamment le territoire congolais. Ajoute cette source diplomatique. La France continue à soutenir et encourage les deux parties à participer pleinement dans le processus de Luanda et de Nairobi, précise enfin cette source. Alors pour Paris, cette visite a pour but de démontrer que la France est un allié de la RDC, et ce alors que dans le pays, la colère gronde vis-à-vis de la colère de la communauté internationale. Plusieurs chancelleries, dont celle de la France, ont été violemment prises à partie cette semaine lors de manifestations à Kinshasa, et hier soir, le chef de l'État congolais a tenu des propos très sévères vis-à-vis de la communauté internationale. Votre silence et inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités commises constituent un affront, a-t-il lancé, ajoutant « Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frise la complicité ». Fin de citation.
Alexandra Brangeon, en direct de Kinshasa.
Au Proche-Orient, c'est le troisième échange d'otages contre prisonniers depuis le début de la trêve entre Israël et le Hamas.
Des scènes de joie sur des ruines à Gaza. Les mêmes images ont été diffusées de la libération des otages. Mise en scène du djihad islamique en armes à Khan Younes, où une civile israélienne de 29 ans et un homme de 80 ans, germano-israéliens, ont été remis au milieu de la foule à la Croix-Rouge. 5 hommes de nationalité thaïlandaise ont aussi été libérés. Tous travaillaient comme ouvriers dans les kibboutz proches de la bande de Gaza. À Jabalia, plus tôt dans la journée, ce sont les hommes du Hamas qui ont relâché une soldate de 20 ans, Agam Berger. À Jérusalem, son père est rempli d'émotion. Sami Bouhelifa s'est entretenu avec lui.
Il a fait du retour de sa fille le combat d'une vie. Le 7 octobre 2023, Shlomi Berger découvre sur les réseaux sociaux la vidéo d'Agam, sa fille soldate, capturée dans sa base militaire de Nahal Oz, à moins d'un kilomètre de la bande de Gaza. Sa mission à l'armée, guetteuse, chargée de surveiller la frontière entre Israël et l'enclave palestinienne. Le jour de l'attaque du Hamas, elle est emmenée à Gaza avec notamment 4 autres soldates. Elles ont été libérées la semaine dernière et c'est désormais elle qui rentre à la maison, se réjouit son père Shlomi Berger. Bien sûr que je suis heureux, je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Agam a passé 482 jours aux mains du Hamas à Gaza, plus de 15 mois de captivité. Shlomi Berger se confiait déjà auprès de RFI en octobre dernier. Agam a fêté son 20e anniversaire à Gaza. Si je devais m'arrêter et réfléchir à tout ce qu'elle a traversé au jour le jour, je m'effondrerais. En tout, ce jeudi, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais ont été libérés. Samedi, 3 autres Israéliens seront relâchés par le Hamas. Sami Bourfa, Jérusalem, RFI.
Et en échange, plus d'une centaine de prisonniers palestiniens doivent être libérés par Israël. Une opération suspendue pour le moment par l'État hébreu qui dénonce des scènes choquantes lors de la libération des otages.
En Haïti, la commune de Kenskov, épargnée pendant longtemps, a été la cible de violences.
La commune perchée sur les hauteurs au sud de Port-au-Prince a subi l'assaut des gangs en début de semaine. Des habitants ont été tués, dont 12 membres d'une même famille. Des maisons incendiées, du bétail volé. Le récit d'une violence absolue avec sur place Peterson Luxama.
À Kenskov, jadis, un refuge loin du carreau de Port-au-Prince, les gangs armés ont frappé vite et fort, laissant la population dans l'angoisse, comme ce père de 3 enfants qui cite les noms de ses proches tués par des bandits.
Ils ont enlevé le père d'un jeune homme nommé Léger. Ils l'ont tué puis brûlé près de chez moi. Un autre citoyen qui tentait de fuir a été capturé et décapité. Madame Jacques, une sœur de mon église, a aussi été décapitée et les bandits sont partis avec sa tête.
Des violences d'une brutalité inouïe. Au total, 12 membres d'une même famille ont été froidement exécutés. Les parents ont été tués près de leur domicile, tandis que les autres victimes ont été retrouvées à l'intérieur de la maison. Seul un membre de la famille a survécu en raison de son absence lors de l'attaque. Ce qui s'est produit à Kenskov est tout simplement inimaginable, selon Naïka, qui n'a plus de nouvelles de ses proches depuis l'offensive des gangs.
J'ai des membres de ma famille qui ont vu leur maison et leur boutique prises par les bandits. Ils se sont installés dans la maison maintenant. Mais ses proches, je ne les vois plus. Je ne sais pas où ils sont.
Kenskov, territoire autrefois paisible, devient un nouveau théâtre de la guerre des gangs. Du côté des autorités en place, c'est le silence radio. Et les actions posées par la police nationale sont comme des coups d'épée dans une mer agitée. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
À suivre dans quelques minutes, l'entretien de Leslie Voltaire accordé à RFI et France 24. Le président du Conseil de transition revient sur la situation sécuritaire en Haïti au micro d'Arnon Pontus et de Marc Perelman.
C'était le journal de Karine Bellicha.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
À Washington, une collision mortelle entre un avion et un hélicoptère. On entend derrière moi la conversation d'un agent de la tour de contrôle avec l'hélicoptère. Quelques secondes plus tard, c'est la collision. Les pompiers parlent de 28 morts et pensent qu'il n'y a pas de survivants. 64 personnes étaient à bord de l'avion de ligne. Anne Verdaguer, la presse américaine raconte les difficultés rencontrées par les pompiers pour repêcher les corps.
Oui, le New York Times dit craindre de nombreuses victimes, vous l'avez dit, alors que les eaux boueuses du fleuve Potomac compliquent le travail des sauveteurs. En plus du vent et des températures polaires autour de 0 degré dans l'eau, révèle le Washington Post, ce qui peut créer une hypothermie en moins de 30 minutes. Le New York Times a interrogé le célèbre pilote Chesley Sullenberg, plus connu sous le nom de Sully, qui avait réussi à poser un avion dans la rivière Hudson en 2009. Il estime que cet accident intervient à un moment de l'histoire de l'aviation où il n'a jamais été plus sûr de voler, et pourtant.
Autre sujet, à la une des journaux américains, Anne, la zone de débordement de Donald Trump, de quoi parle-t-on ?
Tout président teste les limites de son autorité, explique l'éditorialiste de Politico, mais jamais aucun président américain n'était jamais allé aussi loin. Donald Trump inonde ses adversaires de déclarations et de décrets, explique The Hill, ce qui a pour conséquence de faire courir les journalistes dans tous les sens et de ne pas laisser le temps aux démocrates de répondre. C'est ce qui rend Donald Trump si difficile à contrer.
Anne Verdaguer pour la revue de presse. Il est 8h. 9 à Port-au-Prince.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, les efforts de la force multinationale déployée pour combattre les gangs commencent à porter leurs fruits, selon Leslie Voltaire. Le président du Conseil présidentiel de transition précise toutefois qu'elle n'est pas suffisante, car moins de la moitié des policiers étrangers qui doivent être déployés l'ont été. Leslie Voltaire a donné un entretien à RFI et France 24 où il revient sur la situation sécuritaire dans son pays et précise également le calendrier électoral. Il répond aux questions d'Arnaud Pontus et de Marc Perelman.
Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Monsieur le Président, je vais commencer par la situation sécuritaire. On estime que 85% du territoire de la capitale Port-au-Prince est actuellement aux mains des gangs. Il y a eu plusieurs massacres de grande ampleur ces derniers mois qui ont frappé l'opinion. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur Haïti, avertit les gangs pourraient s'emparer de l'ensemble de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ce qui entraînerait l'effondrement complet de l'autorité de l'État. Il a raison.
Je ne pense pas qu'il ait raison. Je sais que
la police et l'armée, aidés par la force multinationale de support à la sécurité, à la police haïtienne, est en train de combattre les gangs, non seulement dans la zone métropolitaine, surtout dans les hauteurs à Kinskoff, et aussi dans l'Artibonite. Je pense que avec l'annonce du secrétaire d'État Marco Rubio, qui dit qu'ils vont continuer à financer la force multinationale, on a eu un apport de 200 Kenyans en plus, de 80 Salvadoraignes et de 150 Guatémaltèques. La police va refouler les gangs et on va arriver à les isoler. On nous avait promis 2500 troupes. Nous sommes en train de former des militaires et des policiers. Il y a 3 semaines, on a eu la graduation de 739 policiers en plus. On a un apport en matériel létal des États-Unis et de la France. Je pense que les gangs sont en train de reculer sur certains fronts. Ils attaquent sur d'autres fronts, mais je pense qu'on va avoir une sécurité beaucoup plus prononcée dans la zone métropolitaine.
Monsieur le Président, vous parlez de cette mission internationale d'appui à la sécurité. Vous le dites, 800 hommes sur 2500 espérés, ça fait tout de même une très grande différence. Et pour l'heure, au risque de vous contredire, les gangs ne reculent pas.
Les gangs ont reculé sur Delma 2. Les gangs reculent dans l'Artibonite. Ils attaquent sur d'autres fronts. Et en plus, non seulement on a 2000, on a 8000 policiers, on a 1 200 000 soldats. Et maintenant, la force multinationale va augmenter.
Et ces effectifs vous semblent nécessaires, suffisants en
ils
l'état
sont, ils ne sont pas suffisants. Je pense qu'on est en train de faire du lobby pour augmenter les effectifs. Et la population s'est alliée à la police. Et ils ont commencé à faire des travaux de légitime défense sur les bandits. Et c'est une guerre qu'on a lancée. Et on a lancé un slogan de pacification du pays durant l'année
2025. C'est ce que vous avez dit il y a quelques jours. Et, vous pensez cet objectif tenable, Monsieur le Président ?
C'est totalement tenable.
Je veux quand même en venir à la situation humanitaire, qui est dramatique. 1 million de déplacés en 2024, 3 fois plus que l'année précédente. 2 millions d'Haïtiens en situation d'insécurité alimentaire grave. L'ONU a lancé un appel de fonds pour 900 millions de dollars, mais on sait que les précédents appels n'ont pas été concluants. Est-ce que vous espérez de la communauté internationale? Vous avez vu le pape à Rome, le président français ici à Paris, qu'elle va enfin se tenir réellement aux côtés des Haïtiens.
Bon, je crois que le secrétaire d'État américain avait annoncé que le président Trump allait couper l'aide humanitaire, mais hier j'ai vu qu'ils se sont ravisés. Ils ne vont pas couper l'aide humanitaire. Le programme alimentaire mondial est en train de fournir des aliments et des médicaments à l'Organisation internationale de la migration et l'Organisation nationale de la migration en Haïti. C'est une situation compliquée et difficile, mais je crois qu'on va arriver à un retour au quartier en éliminant les gangs qui contrôlent certains quartiers.
Et vous aurez assez d'argent, la communauté internationale, parce que c'est ça le nerf de la guerre.
Oui, je pense qu'on aura assez d'argent. Et d'ailleurs, le président Macron vient de m'annoncer qu'il va plaider pour augmenter cette assistance humanitaire.
Et pour ce qui concerne l'aide au développement, vous parliez de Marco Rubio il y a un instant, mais l'aide au développement, Donald Trump a bien annoncé sa suspension pour 90 jours. Est-ce que vous craignez les conséquences concrètes pour Haïti dans les semaines qui viennent, de façon très directe et très concrète ?
Oui, oui, je crains et j'ai dit que ce serait catastrophique.
Et est-ce que vous ressentez déjà ces conséquences ?
Non, pas encore, puisque ça fait à peu près 3 jours qu'il a annoncé ça. Mais je vois que le secrétaire d'État Marco Rubio, il a contredit presque le président Trump en disant que l'aide alimentaire allait continuer en Haïti.
L'aide alimentaire, ce n'est qu'une partie de l'aide au développement. Hein.
Oui, je sais ça, mais on est en train aussi de travailler avec le FIDA, que j'ai rencontré à Rome, et avec certaines ONG comme le San Egidio à Rome aussi. Et aussi, nous sommes en train de parler à la Banque mondiale, aux Nations unies et à la Banque interaméricaine de développement pour augmenter cette aide au développement.
Alors, il y a un autre sujet avec l'administration Trump, c'est celui des annonces par Donald Trump de la déportation massive d'illégaux. On estime qu'il y a environ 1,5 million d'Haïtiens aux États-Unis, 150 000 dans le cadre du programme appelé « Système de protection temporaire ». Ils risquent d'être renvoyés en masse en Haïti. On a parlé de la situation sécuritaire, de la situation humanitaire. Ça va être un désastre si ça
c'est
se passe.
C'est vrai, et aussi les Dominicains aussi qui rapatrient 10 000 personnes par semaine. Et c'est la raison pour laquelle le Programme alimentaire mondial et l'OIM sont en train d'aider le gouvernement haïtien à aider à solutionner ce problème, mais c'est difficile.
Quand vous allez voir Marco Rubio dans les jours qui viennent, est-ce que vous allez lui demander, après avoir suspendu évidemment ce qu'on a dit à propos de l'aide, est-ce que vous espérez que sur la déportation en Haïti, il fasse un geste, étant donné votre situation critique ?
Oui, c'est ce qu'on va lui dire, et d'autant plus que comme c'est un ancien sénateur de la Floride, et qu'il y a beaucoup d'Haïtiens aussi qui ont voté pour lui, je vais aussi parler aux Haïtiens pour qu'ils fassent le lobby auprès de l'ancien sénateur Marco Rubio pour que Haïti soit épargné de ce flux d'Haïtiens qu'ils pensent faire revenir en Haïti.
Parlons de la situation et des perspectives politiques en Haïti. Vous avez promis la tenue d'un référendum sur la Constitution ainsi que des élections générales à l'horizon d'un an à peu près. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'objectifs compromis. Pensez-vous vraiment pouvoir tenir ce calendrier ?
Je pense que oui, on peut tenir ce calendrier. On espère que vers la fin avril, vers la mi-mai, on aura un référendum sur la Constitution, et à partir de ce référendum qui dira quelle sorte de conseil électoral on aura dans la nouvelle Constitution, qu'on pourra commencer avec les joutes électorales. On espère que les élections se feront vers la mi-novembre et le deuxième tour vers la mi-janvier, pour qu'enfin, le 7 février, on ait un gouvernement légitime.
C'est très rapide quand on fait le constat de la situation sécuritaire aujourd'hui.
Mais il faut dire que la situation sécuritaire se trouve surtout en zone métropolitaine et aussi dans un quart de la région de l'Artibonite, qui sont
oui.
les régions les plus peuplées.
On ne peut pas oublier Port-au-Prince.
On ne va pas oublier Port-au-Prince. Moi, je pense qu'on aura des élections dans 8 départements qui sont libres de gangs. On aura des élections dans l'Artibonite qui est à un quart est contrôlé par les gangs. On aura des élections dans la moitié de Port-au-Prince. Les gens qui vivent dans les zones contrôlées par les gangs pourront aller s'inscrire dans les zones qui sont libres et voter dans les zones qui sont libres. Mais je dois dire aussi que la dernière élection, le président Jovenel Moïse avait réussi avec 500 000 électeurs. Maintenant, on a à peu près 7 millions d'électeurs. Si les élections se font avec 5 millions d'électeurs, le gouvernement légitime, le président ou la présidente, les sénateurs, les députés ou les maires seront beaucoup plus légitimes que le conseil présidentiel que je préside.
Monsieur le Président, d'un mot sur cette question, ça veut dire que tous les Haïtiens ne pourront peut-être pas voter, tous ceux qui le veulent, et qu'on ne pourra pas voter partout. Ça, c'est un état de fait que vous admettez d'ores et déjà ?
J'admets d'ores et déjà, et j'admets aussi qu'on va essayer de faire voter les Haïtiens qui se trouvent en diaspora pour augmenter le taux de participation, et j'admets aussi que ce sera beaucoup plus légitime qu'un conseil présidentiel qui est issu d'un accord politique C'est une légitimité sociale et politique, mais ce n'est pas une légitimité électorale.
Alors, vous parlez de la légitimité de ce Conseil. Il y a justement un scandale de corruption qui éclabousse trois de ses neuf membres, accusés d'avoir voulu extorquer le directeur d'une banque. Je crois comprendre qu'il y a eu des pressions des États-Unis, d'autres pays alliés, pour que vous les fassiez partir de ce Conseil de transition. Pourquoi est-ce que vous les gardez avec ce soupçon de corruption aujourd'hui?
Vous avez bien dit, c'est une tentative de corruption. Ils sont devant la justice et on n'a pas de provision légale dans cet accord politique pour les expulser du Conseil. Ils sont devant la justice, c'est la justice haïtienne qui doit trancher, pas nous-mêmes.
Et donc vous n'allez pas les mettre dehors?
On n'est pas et on n'a pas de provision légale pour le faire.
Pour refermer cet entretien, vous avez rencontré ce mercredi le président français, Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui avez parlé de la restitution de la dette d'indépendance? Pour ceux qui nous écoutent, en un mot, 1825, la France du roi Charles X avait exigé d'Haïti des indemnités au moment de l'indépendance. Est-ce que vous avez demandé à votre homologue le remboursement?
Ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui a commencé à parler de la restitution.
Et qui vous l'a proposé?
Et de la réparation. Et il a dit que le 17 avril... qui marquera le bicentenaire de cette rançon, il va faire une déclaration.
Et vous pensez que ce sera une déclaration dans le sens d'une restitution? On parle de 525 millions d'euros.
On n'a pas parlé d'argent, on a parlé...
De principe.
De principe, d'une déclaration, et qu'on va voir ensemble.
Donc les relations sont bonnes aujourd'hui avec le président français?
Sont très bonnes et très cordiales.
Vous avez oublié les mots lâchés en novembre dernier qui s'adressait aux membres du Conseil présidentiel de transition?
On n'en a pas parlé et je pense que ce n'était pas de bon ton d'en parler.
Merci, Monsieur le Président.
Merci.
Et on revient sur cette interview de Leslie Voltaire avec vous. Franz Duval, bonjour, vous êtes rédacteur en chef du journal haïtien Le Nouvelliste. Franz, que pensez-vous du calendrier électoral annoncé par Leslie Voltaire et de la faisabilité de ce processus?
Bonjour. Le calendrier est très optimiste, mais c'est l'optimisme des chefs, comme on dit en Haïti. Quand on est au pouvoir, on espère, on pense, on veut bien croire qu'on pourra respecter le calendrier qu'on s'est fixé. C'était le cas déjà avec le Premier ministre Ariel Henry, c'était le cas aussi avec Gary Conny. Aujourd'hui, c'est Leslie Voltaire qui parle, il est optimiste. Sur le terrain, c'est pas vraiment ce qu'on voit, mais l'optimisme peut-être pourra faire débloquer la situation.
Et sur la question de la dette et de la réparation, Leslie Voltaire et Emmanuel Macron n'ont pas parlé d'argent. Le président haïtien du CPT a seulement évoqué une déclaration promise le 17 avril par le président français, sans donner de précision. Qu'en pensez-vous, Franz?
Alors, encore une fois, la dette, on prend par le mauvais bout. Il faudrait qu'Haïti ait une commission qui finit par statuer. Il faudrait qu'il y ait d'abord des conversations entre les autorités haïtiennes et françaises pour voir de quoi on veut parler. Et enfin, au plus haut niveau, au niveau des présidents, on pourrait avoir une conversation à ce sujet. Encore une fois, on a eu des échanges diplomatiques, des échanges cordiales, comme a expliqué M. Voltaire. Je ne pense pas que c'était à l'ordre du jour, je ne pense pas que la question de la dette, de la restitution de la double dette était sur la table. On a évoqué le sujet, on attend de voir, mais en réalité, il n'y a jamais eu de vraie conversation avec des dossiers constitués pour voir comment on peut avancer d'une manière ou d'une autre sur cette question.
Dans votre éditorial, enfin, Franz, vous parlez de subtilité diplomatique entre la France et Haïti, c'est-à-dire, les relations sont-elles à nouveau très cordiales, comme l'assure Leslie Voltaire dans cette interview?
Les relations sont plutôt toujours bonnes entre la France et Haïti, et les relations sont encore bonnes, il n'y a pas de point de fixation, il n'y a pas d'incidents et tout s'est bien passé. La rencontre d'hier, c'était un tête-à-tête et il n'y a pas eu de déclaration conjointe à la fin de la rencontre, il n'y a pas eu de document signé et bon, pour le moment, c'était tout simplement une rencontre de courtoisie. On attend de voir les retombées. Du côté haïtien, on a sorti un communiqué, l'Élysée a aussi sorti un texte qui ne disent pas tout à fait la même chose et c'est dont parle l'éditorial du Nouvelliste de ce matin. Haïti est très optimiste suite à cette rencontre. La France est un peu plus réservée dans son texte publié sur le site de l'Élysée. On attend l'avenir pour voir qu'est-ce qui va se passer vraiment.
Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, avec nous tous les jeudis sur RFI pour commenter l'actualité haïtienne. On lit notamment donc dans l'édition de ce jeudi votre édito dans le journal RFI. Il est 13h25, pardon, en temps universel. On fait un tour dans la playlist musicale de RFI. On écoute ce titre, Hola, de Celiawa, la chanteuse et flûtiste guadeloupéenne. Son œuvre résonne comme une odyssée Airbnb créole.
Ou pâti ou volé, ou courir, mon chercheur, mon page est retrouvé. Allez là, mon commandé, mon commandé, qu'a qui passe.
Quand sirène la sonné, mon commandé, qu'a qui passe. Mon commandé, qu'a qui passe. Quand sirène la sonné, mon commandé, qu'a qui passe.
Créole de Celia Wa avec ce titre Hola qu'on retrouve dans la playlist de RFI. Le journal des Outre-mer, Benoît Ferrand, montré du doigt, traîné en justice. Le groupe Bernard Ayotte réagit et porte plainte.
Accusé entre autres turpitude, d'abus de position dominante et de pratiques anticoncurrentielles, le groupe aux 18 000 collaborateurs implantés dans 19 territoires annonce avoir saisi la justice pour dénonciation calomnieuse. Olivier Lancien, la première Guadeloupe.
Dans un premier temps, GBH réfute les accusations. Il estime être le groupe le plus contrôlé fiscalement, socialement, sur le respect des règles de la concurrence, voire sur l'éthique, sans jamais avoir été mis en défaut, selon le communiqué. Il fait aussi ensuite acte de contrition. Désormais, sa philosophie a changé. Ses comptes sociaux et consolidés sont déposés au tribunal de commerce et le seront systématiquement à l'avenir. Selon GBH, les frais d'acheminement, la consommation locale tournée vers l'Hexagone à des milliers de kilomètres, mais aussi les frais d'approche, entendez par là les droits de douane, l'octroi de mer et les différents coûts incorporés dans les prix, sont les véritables catalyseurs du débat de la vie chère. Selon la multinationale, des handicaps supposés qui ont déjà été soulignés dans différents rapports des instances de contrôle ou autres autorités de la concurrence ou fiscale. GBH veut une entité vertueuse et cela doit être respecté et préservé, je cite, des ingérences médiatiques et politiques.
Affaire à suivre, selon la formule consacrée. Bon après-midi Marion, à demain.
Merci Benoît Ferrand pour le journal des Outre-mer. C'est ainsi que s'achève RFI Midi, ce tour du monde de l'actualité. Merci à Yann Eligouin qui était à la réalisation aujourd'hui et à ceux qui m'ont aidé à préparer RFI Midi, Emmanuel Klotz et Naja Daguerre. On se retrouve donc demain dès midi et demi, heure de Paris, pour une nouvelle édition de RFI Midi. Très bonne journée à l'écoute de la Radio du Monde.
De voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages
sur le thème de demain.
Rester ou quitter X ? C'est la question qui divise les politiques et les médias occidentaux face aux fake news d'Elon Musk. Alors, faut-il boycotter X pour d'autres réseaux plus éthiques ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.